les enzymes qui sont nécessaires à la biosynthèse de la dopamine. Vous voyez ici un exemple d'un sujet normal, avec c'est très très noir puisqu'il y a beaucoup de dopamine, et un sujet atteint par une maladie de Parkinson avec une diminution très importante de la dopamine dans cette région ici, qui est en priorité, dès le début de la maladie, la région motrice. Vous pouvez noter qu'il y a un gradient de dégénérescence avec une préservation d'autres secteurs. Et ça, c'est très important pour comprendre notre approche de thérapie génique. Alors, cette diminution de dopamine entraîne, bien entendu, des tremblements que vous connaissez tous, un ralentissement des mouvements, une bradykinésie, ça fait partie du ralentissement des mouvements, une rigidité, et puis des symptômes dits non-moteurs qui arrivent plus tardivement dans la maladie. Il s'agit de la dépression, des déficits cognitifs, des troubles neuropsychologiques et des symptômes neurovégétatifs. Alors, on parvient à traiter Amélie Parkinson au début de la maladie de manière extrêmement satisfaisante avec des molécules qui s'appellent donc, le traitement médical, la L-DOPA ou des agonistes dopaminergiques. Donc on nomme cette phase de début comme une lune de miel avec le traitement dopaminergique. Mais progressivement, à mesure que la maladie progresse, surviennent des complications motrices que l'on nomme comme fluctuations motrices, c'est-à-dire des fluctuations d'effet et des dyskinésies. Donc vous pouvez voir ici une patiente qui, sans traitement, donc elle a un tremblement, elle est rigide, elle a de la peine à se lever de son fauteuil. Et c'est une autre patiente qui a un traitement dopaminergique et qui est dans cette phase ici où elle a des mouvements anormaux incessants avec le traitement dopaminergique. Donc cette phase est autant invalidante que la phase où le patient n'est pas traité par le traitement dopaminergique. Alors pourquoi ces complications surviennent? Il y a une explication, c'est que l'administration orale et discontinue de dopamine induit des pics de concentration de dopamine au niveau du cerveau, et ce qui engendre et favorise la survenue de ces complications motrices. Donc l'objectif de notre thérapie génique, c'est d'induire une sécrétion continue et locale de dopamine, c'est-à-dire à l'endroit où il n'y a plus de dopamine, ici la sécrétion de dopamine, dans la partie motrice, et surtout continue pour éviter ces complications motrices. Donc pour cela, on a choisi faire synthétiser la dopamine au niveau du striatum en transférant les gènes nécessaires à la biosynthèse de la dopamine, c'est-à-dire les trois enzymes qui sont là, tyrosinoxylase, cyclohydrolase 1 et la décarboxylase. N'importe quelle cellule munie de ces trois enzymes est capable de sécréter à nouveau de la dopamine. Donc pour transporter ces gènes dans le cerveau, il faut un vecteur, et donc un vecteur viral. Le vecteur viral qui a été choisi, c'est celui qui est développé par la société Oxford BioNTech. C'est un vecteur viral qui a la capacité de transporter ces trois enzymes, de faire sécréter les enzymes par les cellules et ainsi faire une fabrique à dopamine, une nouvelle fabrique à dopamine au niveau cellulaire. Donc ça a été démontré in vitro chez le rongeur et chez le primate non humain au CEA à Mirsen avant d'aller en clinique dans la phase 1 que je vais vous présenter. Je vous montre une animation de l'injection de ces vecteurs viraux, vous voyez ici en rose, dans un environnement neuronal, des neurones avec des connexions. Vous voyez que le vecteur arrive à la surface de la cellule, du neurone, tous les différents vecteurs, et ensuite il relargue une capside munie de ces gènes médicaments qui vont aller s'introduire ici dans le noyau. Vous voyez, ici c'est l'intérieur du noyau. Vous voyez que le gène médicament va ensuite aller s'insérer dans le gène de la cellule hôte, ici. Cela permet donc de lire ce code génétique et de pouvoir faire la sécrétion de dopamine à partir de ces cellules, qui normalement n'en sécrètent pas. Alors on sait également que ça ne va pas perturber le fonctionnement normal de la cellule. Alors, je vous remets l'animation avec ces trois enzymes qui vont faire la sécrétion de dopamine en continu. Donc, on avait bien mesuré chez l'animal, avant l'initiation de cet essai clinique, que les taux de dopamine n'étaient pas su- supérieurs aux taux normaux qui sont ici. Vous voyez, ça représente 50%, et c'est suffisant pour induire un effet thérapeutique. Donc cette dopamine est sécrétée de manière continue. Mais l'autre avantage de cette thérapie génique, c'est que quand on donnera de la L-DOPA au patient, avec cette enzyme que l'on, aussi, que l'on donne dans la thérapie génique, il va pouvoir convertir mieux la L-DOPA en dopamine. Alors qu'il y a une perte de conversion de la L-DOPA en dopamine avec la diminution de cette activité. Donc on a deux actions avec la même thérapie génique en transférant les trois enzymes. Alors nous avons commencé en 2008 chez des patients atteints par Parkinson par une dose assez faible, des doses qu'on avait utilisées dans les modèles animaux pour des raisons de sécurité, un par un, en attendant un mois entre chaque patient, puis trois mois entre chaque dose. Si on constatait qu'il y avait une bonne tolérance de l'injection de ce vecteur, avec un effet mais peut-être insuffisant, on passait à des doses supérieures. Donc on a fait quatre niveaux de dose, avec une dose 5 fois supérieure dans les derniers patients par rapport aux premiers patients. Et nous avons inclus à ce stade-là 3 patients anglais qui ont été opérés à Cambridge et observés par les médecins anglais. L'intervention consiste à utiliser des systèmes de neuronavigation, ça s'appelle la stéréotaxie, pour injecter les vecteurs viraux au niveau du striatum. Vous voyez, ce n'est pas au niveau de la substance noire, c'est vraiment au niveau où on a besoin de fabriquer de la dopamine. C'est une intervention bilatérale et qui est vraiment dirigée dans la zone où il n'y a plus du tout de dopamine. Et ça, c'est des images en tomographie par induction positron qui montrent très bien qu'il n'y a plus du tout de dopamine. Ça devrait être complètement rouge. Et donc, on vise vraiment cette zone-là. Vous voyez une IRM avec la trace de l'aiguille et l'injection qui s'est faite à cet endroit. Donc, on a vérifié, bien entendu, et ça c'est très important parce que c'est novateur, hein, ce vecteur viral est vraiment novateur, et nous avons donc vérifié sur le plan biologique qu'il n'y avait pas de détection de particules virales dans le sang et dans les urines, donc une diffusion de ce vecteur dans tout l'organisme, que le vecteur n'était pas intégré dans les leucocytes, qu'il n'y avait pas de réponse inflammatoire. Tous les patients ont retrouvé une autonomie dès les 24 premières heures après la chirurgie. On n'a pas observé de mouvements normaux sans traitement dopaminergique oral. Ça, c'est très important. On n'a pas donc surdosé les patients. Et puis, à chaque fois qu'on a eu des petites dyskinésies, on a pu contrôler ces dyskinésies en réduisant le traitement, bien entendu, puisqu'on donne un traitement supplémentaire aux patients. Alors, dans les mesures de l'effet bénéfique moteur, on utilise une échelle qui s'appelle UPDRS, notre troisième partie, en 100 traitements. Le patient est examiné sans aucun traitement depuis la veille au soir. Vous voyez, cette échelle est une échelle de 0 à 103, 0 étant un sujet normal. On pense qu'un patient est déjà sévèrement atteint par la maladie de Parkinson quand il arrive à 27. Et vous pouvez voir sur ce graphe les gains en points UPDRS que nous avons obtenus chez tous nos patients. Donc vous voyez, c'est presque 12 points de diminution de la sévérité à l'UPDRS3 sans traitement chez tous les patients. Et vous voyez surtout qu'en fonction de la dose, ça c'est la dose 1, la dose 2A, 2B et 3, 5 fois la première dose, on a un effet graduel qui est lié à la dose. Donc plus on donne de vecteurs, plus l'effet est important. Et ça c'est très important comme résultat clinique. Vous remarquez également qu'on n'a pas on n'a pas comparé à un groupe contrôle. Parce que c'est la prochaine étape de démonstration d'efficacité dans quelques années. Vous voyez ici également les tomographies par émission positron qui ont été réalisées au CEA, dans le centre I2BM, au service hospitalier Frédéric Joliot et à Mirsen. Vous voyez ici une IRM cérébrale, avec ici le striatum, et vous voyez les zones d'injection, c'est des petits points blancs, tout à fait normal, hein, il n'y a pas d'anomalie. Ici, cette zone est une zone non injectée, qui fait partie du striatum, on n'a pas besoin d'injecter. Vous voyez la tomographie par émission positon, en utilisant le radiocri comme radiotraceur, qui permet de mesurer la quantité de dopamine libérée chez le patient. Et on a remarqué qu'on avait, donc plus sévère, plus il y a de dopamine. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup de dopamine et qu'on a réduit les marques jaunes et rouges. Donc on a une sécrétion de dopamine plus élevée uniquement au lieu d'injection de la thérapie génique. Donc on peut avoir un indice de fonctionnement de notre voie de thérapie génique au niveau du striatum. Alors quand on fait le résumé de nos résultats en fonction des doses, on voit que non seulement il y a un effet dose sur le score UPLRS sans traitement, en off, on dit, mais également une diminution du traitement dopaminergique chez tous les patients, mais qui est plus importante dans la plus forte dose. Une augmentation aussi de l'UPDRS quand on traitait les patients, mais seulement dans les doses 3 et 4, et qu'on avait vu une augmentation de la sécrétion de dopamine de manière significative uniquement dans la dose la plus forte. Alors ces résultats sont très encourageants pour la suite. Je vous ai résumé toutes les avancées médicales liées à cette étude. Premièrement, c'est la première administration in situ chez un patient d'un vecteur lentiviral à usage thérapeutique. C'est donc une première médicale de ce côté-là. On a montré que c'était sûr et bien toléré chez les patients. C'est la première fois qu'on fait une transgénèse, un transfert des gènes, des trois gènes codants pour la dopamine sur un seul vecteur. Et bien entendu, on démontre que cette thérapie génique est très bien tolérée à long terme jusqu'à 4 ans et a démontré des effets bénéfiques qui sont liés à la dose. Et bien entendu, ça donne aussi de grands espoirs pour l'avenir dans la thérapie génique, dans d'autres maladies neurologiques ou d'autres même maladies périphériques. Alors, quel va être le futur maintenant? Alors, je vous ai résumé sur cette planche déjà les différents acteurs de la recherche entre la science publique, l'UPEC, l'INSERM, le CEA, l'IRSEN et Oxford Dominica. Donc on a commencé par la démonstration de l'innocuité et l'efficacité chez le primate. On a fait cette phase 1 dont je vous ai décrit à l'instant. Et on a maintenant poursuivi en améliorant, en changeant légèrement la construction virale pour avoir une sécrétion de dopamine encore plus importante, pour avoir des résultats encore meilleurs chez les patients. Et nous sommes en phase, nous avons déjà validé sur l'efficacité cette nouvelle construction virale qui s'appelle OXB102. Et nous allons donc la tester chez les patients. On va faire d'autres expérimentations chez l'animal, le modèle animal de Parkinson, pour encore plus améliorer cette technique et arriver à la phase 2B, qui est une phase cruciale de démonstration de l'efficacité entre les patients traités et les patients non traités. Et c'est une phase extrêmement importante à passer pour ensuite envisager une application clinique. Alors, je vous disais qu'on a commencé et quasiment terminé cette phase de validation dans les modèles animaux d'OXB102. Et nous pensons, nous avons un objectif de réaliser les essais cliniques en fin 2014 chez 10 patients atteint d'un maladie de Parkinson en France, probablement quelques patients en Grande-Bretagne. Ensuite, nous ferons, une fois que nous sommes prêts, et uniquement quand nous sommes prêts, nous ferons une phase 2B multicentrique en Europe et aux États-Unis pour développer cette thérapie génique avant l'application clinique. Je tiens une nouvelle fois à remercier, bien sûr, les 15 patients qui ont été inclus dans notre étude biomédicale, ainsi que tous les chercheurs, vous voyez la liste ici, à l'hôpital Henri Mondor, au CIVA Mircel, le labo de maladies neurodégénératives, Oxford Biomedica et l'Université de Cambridge. Vous voyez que c'est un projet qui est un projet international entre deux pays et ça reste un projet européen. Je vous rappelle que nos concurrents dans cet axe sont les concurrents américains aux États-Unis ou d'autres voies de thérapie génique. Je vous remercie et puis je suis disposé à répondre à vos questions.
La première.